Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'émission Osons la philosophie est consacrée à la démocratie avec comme titre Où en sommes-nous ? La démocratie, où en sommes-nous ? Et c'est Françoise Gernot, bien sûr. Bonjour Françoise.
Oui. Bonjour Sylviane. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
Qui va en parler ? Alors c'est une émission qui pourra peut-être avoir un aspect plus politique que philosophique, les deux.
Non, parce que je crois que la politique, l'analyse du politique est un champ privilégié de la philosophie, hein, quand on pense à Platon, Aristote par exemple. Mais dans toute la série, dans toute la suite de la pensée philosophique, le propos sur ce que doit être, en toute justice et en toute liberté, le meilleur régime politique, ce thème est absolument fondamental.
Alors bien sûr, la démocratie a été inventée par Périclès en Grèce.
Oui, alors le mot de démocratie est en effet d'origine grecque et tout simplement, il désigne le pouvoir du peuple. Mais encore, alors ce dont je voudrais parler aujourd'hui, en regard justement à l'idéal démocratique et une certaine réalité démocratique qui s'est formée justement à partir des Grecs dans toute notre histoire aussi de ce qu'on appelle les démocraties ou les républiques, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est à quel point la démocratie est en péril.
Oui, c'est assez alarmant. Il y a un véritable désarroi des populations, une certaine lassitude, manque de confiance.
Oui, alors à l'intérieur même de nos démocraties, de nos vieilles démocraties, lentement élaborées, par exemple, les démocraties européennes se manifestent ce qu'on appelle une fatigue démocratique. Mmh. Comme si, effectivement, les populations vivaient une sorte de désarroi, comme si, en quelque sorte, les réalisations présumées de la démocratie étaient en panne. Alors peut-être est-ce lié à l'accroissement des différenciation sociale, ça je crois. Et puis il y a des difficultés de vivre dans la vie quotidienne qui, semble-t-il, s'accélèrent aujourd'hui. Mais cette fatigue démocratique, elle tient tout de même et profondément à une relation des citoyens à leurs institutions. Autrement dit, la question idéologique est importante. Alors c'est important, disais-je, et j'y reviens, c'est important parce que se présente une alternative aux démocraties telles que nous les connaissons, avec leur état de droit, leur système institutionnel, leur constitution, une autre alternative. C'est-à-dire l'alternative, et je crois que la deuxième partie de mon propos y sera consacrée, l'alternative présentée au cœur même de l'Europe. On pense à la Hongrie, par ce qu'on appelle les démocraties illibérales. C'est-à-dire qui conteste en quelque sorte le principe même du libéralisme politique. Alors au nom de régime, nous allons les voir mettent en avant la nécessité d'une autorité au nom du peuple. Ça c'est le premier point. Nos démocraties, même les démocraties européennes, sont sous la menace d'une autre formule qui est d'ailleurs administré avec une certaine force idéologique qui est celle, des démocraties illibérales. Bon, je cite simplement comme ça le nom de Viktor Orban qui se recommande précisément de ce concept. Par ailleurs, nos démocraties sont mises au défi par de nouvelles formes de régimes politiques qui sont ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des autocratie impériale. Alors le terme d'autocratie, je le vois apparaître par exemple dans la presse, à la fois anglo-saxonne et française. Le mot d'autocratie renvoie bien sûr non pas aux Grecs, mais aux Russes. Alors ce n'est pas un hasard si un des modèles une des versions de l'autocratie, eh bien l'autocratie russe actuelle, l'autocratie chinoise, et très certainement ce qui se produit avec enfin, toute la stupeur que ça peut avoir sur nous, tout ce qui se produit actuellement dans cet étrange régime états-unien qui suppose l'alliance entre une forme fascisante de, comment dire, de gouvernance de l'État et une oligarchie technocratique. En un mot, nous savons très bien, hein, Trump, Elon Musk.
En fait, c'est la destruction de la démocratie, une destruction volontaire.
Oui, alors je ne voudrais pas m'attarder à cette thématique. J'y reviendrai peut-être dans la deuxième émission. Mais ce que je veux simplement dire, en me répétant, pardon, c'est que les démocraties européennes, ces vieilles démocraties que nous avons éprouvées depuis longtemps, par-delà, par exemple, la crise épouvantable du nazisme, des fascismes et du nazisme, ces démocraties aujourd'hui sont non seulement contestées, mais elles sont idéologiquement diminuées, disqualifiées par d'autres formes de gouvernement qui, pour moi, sont extrêmement inquiétantes.
Alors, bien sûr, on peut parler de tous les partis d'extrême droite qui veulent anéantir cette démocratie. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer peut-être par un texte de Périclès, puisqu'on a dit que c'est lui qui avait, entre guillemets, inventé la démocratie.
Précisément. Alors, je ne sais pas si Périclès a inventé la démocratie. Il a
défini les principes.
Il a défini les principes de la démocratie athénienne dans un discours qui est le suivant. Alors, je m'explique. De quoi s'agit-il ? Nous sommes donc en 430 avant notre ère. Le stratège, l'homme d'État le plus prestigieux d'Athènes, doit prononcer l'éloge funèbre des Athéniens qui sont tombés les premiers lors de la guerre du Péloponnèse. Ce discours, cet éloge funèbre, est rapporté par Thucydide et certainement magnifiquement retranscrit par Thucydide, avec toute la brillance de ses qualités oratoires, de ses qualités littéraires. Rappelons simplement, avant même que je ne vous lise une partie de ce discours, donc Périclès, mais retranscrit magnifiquement par Thucydide, le grand historien Thucydide. Avant cela, je voudrais simplement pointer deux termes grecs qui définissent précisément la capacité, la singularité de la démocratie grecque par rapport, par exemple, aux tyrannies. Isonomia, c'est-à-dire que les citoyens bénéficient de l'égalité des droits civils et politiques. Bon. Iségoria, peut-être plus important encore, égalité de la prise de parole dans les assemblées, puisque la démocratie suppose la définition de l'action à entreprendre par des assemblées démocratiques, des assemblées dans lesquelles les discours s'entrecroisent pour définir ce qui est le plus juste de l'action politique. Je vous lis.
Oui, avec plaisir.
Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Immédiatement, la démocratie est présentée comme un régime exemplaire.
Un modèle à suivre.
Un modèle à suivre, avec toute l'arrogance qui peut être celle d'Athènes, qui tout de même, à cette époque, régit l'ensemble du monde grec. À la différence que Sparte y prétend aussi, bien sûr. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité. Notre régime a pris le nom de démocratie. Nous voyons bien ici la définition, la détermination du nom. En ce qui concerne les différents particuliers, alors les différents, c'est-à-dire les litiges, en ce qui concerne les différents particuliers, l'égalité est assurée à tous par les lois. Il s'agit de la justice. Mais en ce qui concerne la participation à la vie publique, chacun obtient la considération en raison de son mérite et la classe à laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle. Enfin, nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale s'il peut rendre des services à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République. Et dans nos relations quotidiennes, la suspicion n'a aucune place. Suis quelques lignes, quelques propos sur la civilité entre citoyens qui caractérise, je dirais, justement cette cité démocratique. Alors, nous voyons que tout est en place.
Oui.
Tout est en place avec tout de même une remarque. Avec tout de même une remarque, c'est que ce que nous appelons plus tard le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, d'une certaine manière, ne sont pas distingués. Ce qui pose problème, on a toujours reproché, Platon en particulier, avec, on pense à la condamnation de Socrate, qui relève quand même de ce dispositif unitaire des institutions athéniennes, on a toujours reproché à la démocratie, donc athénienne en particulier, de favoriser le pouvoir d'une masse qui peut être modulable en fonction des rhéteurs dont ils sont la proie et d'une masse qui peut être est ignorante. Alors justement, par avance, Périclès désamorce cette critique, la grande critique toujours opposée à la démocratie, qu'elle peut instaurer une sorte de tyrannie de la majorité. Alors ce mot de tyrannie de la majorité, je l'emprunte, nous y reviendrons au texte très célèbre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique. Et je vous en lirai, certainement dans la deuxième partie de mon propos, je vous en lirai des extraits très significatifs. Mais la démocratie, je dirais absolue, la démocratie totale a toujours été l'objet d'une certaine suspicion au nom justement de la liberté. Peut-être trop d'égalité peut faire pencher les gouvernements, les pratiques politiques du côté d'une moindre liberté.
Alors nous partons de l'inquiétude, une inquiétude générale, hein, la démocratie, où en sommes-nous? Et je crois qu'il est important de parler aussi de ce qu'on appelle la corruption de la démocratie, c'est-à-dire qu'elle a évolué dans un très mauvais sens, et pourquoi?
Oui, alors en effet, une toute petite note de bas de page, si je puis me permettre, concernant la pensée grecque. Chez Platon, chez Aristote aussi, mais chez Platon, hein, qui succède bien sûr, dans le temps à l'épisode de la guerre du Péloponnèse, chez Platon, il y a une analyse, une typologie des régimes politiques et surtout un discours très construit sur la transformation des régimes politiques vers le pire. Hein, comme si tous les régimes politiques devaient accomplir une sorte de cercle néfaste qui, de transformation en transformation, finit dans la tyrannie. Hein? Donc les termes d'oligarchie, les termes de démocratie, les termes de tyrannie que nous employons tout à fait ordinairement dans la pensée politique sont qualifiés et les types d'hommes qu'ils représentent sont qualifiés de manière extrêmement précise dans un livre de la République de Platon. Je souligne l'oligarchie. Nous parlons aujourd'hui, par exemple, à propos des États-Unis, d'une oligarchie dirigeante. Cette oligarchie, elle est représentée par l'homme le plus riche du monde qui se donne pour but, justement, de détruire tout ce qui est superfétatoire dans l'administration fédérale des États-Unis. L'oligarchie, à l'heure actuelle, est au pouvoir. Elle n'est pas au pouvoir en Russie. Alors ce terme d'oligarchie revient aussi dans notre discours politique contemporain, comme si les concepts grecs retravaillaient devant des expériences nouvelles et pour nous stupéfiantes.
Mais est-ce que c'est pas humain de... d'abuser du pouvoir?
Alors nous verrons cela. Notre grand penseur politique, c'est-à-dire Montesquieu, s'est assigné précisément à définir quelles doivent être les bornes du pouvoir, puisque tout, il le dit à peu près dans ces termes-là, tout pouvoir a une tendance à abuser le pouvoir est illimité par essence.
Corrupteur.
Pas forcément corrupteur, mais il y a une dynamique d'excès sur soi-même, sur lui-même, du pouvoir.
Alors, je signalerai tout de même qu'Elon Musk n'a pas été élu. C'est tout de même assez incroyable.
Oui,
que...
alors...
Il ait autant de pouvoir alors qu'il n'a aucune élection.
Oui, alors vous avez raison de poser ce problème de l'élection. Quand j'ai cherché un visuel pour illustrer la démocratie, eh bien, je n'ai trouvé que des affiches où on voyait des mains et des actes de vote. Or, il me semble que l'acte de voter, hein, le droit de vote, ne fonde pas nécessairement la démocratie. Bon, nous avons vu à quel point, par exemple, les régimes fascistes et le nazisme, hein, au milieu des années 30, du XXe siècle, à quel point ces régimes étaient portés par des votes populaires massifs. Ouais. Alors, j'ai en effet proposé ce morceau de l'éloge funèbre de Périclès, si j'ose dire, en faveur des premiers morts de la guerre du Péloponnèse, texte absolument fondateur pour définir ce qu'est la démocratie, c'est aussi pour montrer à quel point, à partir justement de Thucydide, le modèle de la démocratie grecque s'est imposé à nous. Alors un modèle est bien sûr ici un modèle idéal. Il ne faudrait pas non plus imaginer que ce que configure Périclès
est vraiment fonctionné, en
fait. Fonctionne dans la réalité de l'expérience historique de la cité grecque. Je voudrais en venir maintenant à ce que nous, entre guillemets, appelons maintenant la démocratie. La démocratie s'élabore aussi bien conceptuellement, mais elle s'élabore aussi à travers des expériences historiques diverses et variées, mais cohérentes. Bon, en premier lieu, la démocratie, pour nous, suppose la souveraineté du peuple. Le mot de souveraineté apparaît dans la pensée essentiellement du XVIIe siècle. La souveraineté définit la puissance des citoyens rassemblés dans ce qu'on appelle aussi une république. Le mot de république étant bien sûr d'origine latine. Donc, pas de démocratie sans une souveraineté populaire qui se manifeste, nous faisions allusion à cela, essentiellement, fondamentalement, par le droit de vote. Bon, il n'en reste pas moins que la souveraineté populaire ne suffit pas à définir la démocratie. La démocratie suppose l'état de droit. Alors, cette notion est très importante, la notion d'état de droit. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, ça veut dire d'abord que les citoyens, et c'est une conquête historique, et peut-être les Anglais en sont-ils les principaux acteurs, les citoyens, donc, sont, dans un état de droit, protégés de l'arbitraire du pouvoir. Alors que le pouvoir tente toujours à s'exercer au-delà de toute limite, c'est une remarque que tous les penseurs politiques et notre expérience peut donc envisager, n'est-ce pas ? Alors, les citoyens sont protégés de l'arbitraire du pouvoir. Cela veut dire, par exemple, qu'ils ne peuvent pas être interpellés sans motif légal, tenus en quelque sorte en prison. Hein, nous pensons à l'habeas corpus anglais du XVIIe siècle. Cela veut dire aussi que les citoyens ont accès ou doivent avoir pour droit fondamental la sûreté. Alors le concept de sûreté est équivoque ou ambivalent parce qu'il désigne aussi bien une sécurité, c'est-à-dire la propriété de sa personne par rapport à des emprises injustes de l'État, mais cela désigne aussi la sécurité du citoyen vis-à-vis d'autres citoyens. Donc sûreté, le terme est encore une fois ambivalent. On ne peut pas considérer la démocratie sans cette double protection de l'individu, de l'arbitraire du pouvoir et aussi
des autres citoyens,
des exactions qui peuvent être commises par d'autres sur lui. D'où la nécessité, évidemment, d'un système judiciaire. En démocratie, les citoyens, donc, sont, devant les lois, libres et égaux. Le concept fondamental, c'est bien sûr le concept de liberté. La liberté, au sens politique, s'entend comme une capacité à contribuer à la vie politique, à la vie politique, de l'État, car nous sommes dans une configuration étatique. Configuration étatique, peut-être État-nation. Et quand j'évoquais tout à l'heure les grands systèmes impériaux qui sont en train de s'imposer, hein, sous le titre d'autocratie, je sortais justement de cette orbe, en quelque sorte, de l'État-nation classique qui revêt cette forme démocratique. Bon, j'enchaîne. Hein. Ce qui caractérise la liberté, c'est aussi la possibilité de formuler, de proclamer son opinion. Hein. Évidemment, cela suppose la délibération en commun, qu'elle soit plus ou moins liée à des systèmes de représentation, car nos démocraties modernes sont des démocraties représentatives. Mais exemplairement, hein, cette liberté d'opinion ne s'exprime pas simplement, je dirais, dans le jeu, par exemple, des assemblées. Elle s'exprime aussi et de manière exemplaire par la liberté de la presse. On ne peut pas définir un régime politique comme démocratique si la liberté de la presse n'est pas garantie. Or, nous savons à quel point aujourd'hui de très très nombreux États-nations et empires autocratiques mutilent, réduisent, censurent la liberté de la presse. C'est vraiment la liberté de la presse, c'est vraiment la pierre de touche, je dirais, de l'exercice de la liberté, d'une liberté effective en système démocratique.
Et de nos jours, avec le développement d'Internet, la liberté des médias également.
Alors, nous sommes confrontés à un nouveau problème qui est celui du déchaînement, en particulier sur Facebook ou autre, le déchaînement des haines, des violences à l'encontre de toute opinion qui serait contraire à la sienne ou à la nôtre. Nous sommes dans une nouvelle configuration où liberté, oui, est donnée à n'importe qui de haïr n'importe qui au nom de d'une opinion personnelle,
liberté, oui,
d'un affect, d'une extraordinaire violence. Toute conciliation, tout apaisement par le débat est donc annulée.
Vous avez employé le mot déchaînement, et c'est vrai qu'on est face à des attaques absolument incroyables.
Oui, mais les penseurs politiques ont toujours pensé que la licence condamnait la liberté. Et nous sommes partiellement dans un système où ce qui s'exprime de l'opinion relève de la licence et non pas de la liberté. Mmh. La liberté est toujours contrôlée. Et justement, je vais en venir à Montesquieu. La démocratie, j'ajoute, et c'est très important, et je faisais allusion à l'instant à Montesquieu, la démocratie suppose une règle constitutionnelle. Il ne peut pas y avoir des droits, d'état de droit, pardon, sans une constitution qui définisse et partage les différents pouvoirs. Alors, nous savons bien, nous qui étions allés en classe, que le grand penseur de la liberté, d'une liberté qui précisément suppose un dispositif constitutionnel de séparation des pouvoirs, c'est Montesquieu.
Ouais. Oui, je pensais que vous alliez démarrer l'émission par Montesquieu, mais vous l'avez commencé par Périclès. Mais c'est un choix intéressant. Et nous parlerons de toute façon de Montesquieu, le fameux livre 11.
Je vais tenter, mais le temps nous est compté malheureusement. C'est un peu dommage. Je vais tenter de vous lire quelques extraits de l'Esprit des lois de Montesquieu, avec justement ce souci pour lui, à partir d'une analyse politique de la Constitution d'Angleterre, de montrer à quel point il doit y avoir séparation des pouvoirs de telle sorte que la liberté soit garantie. Alors, j'insiste sur ce point. Pour la pensée politique classique, la liberté est peut-être plus fondamentale que l'égalité. Alors, je vous lis, pardonnez-moi, c'est un peu rapide, ceci. Livre 11, chapitre 4. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites. Pense à la vertu démocratique. Hein. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas et de ne point faire celles que la loi lui permet. J'enchaîne, je le disais à l'instant, la réflexion politique de Montesquieu porte par l'analyse, porte pour nous par l'analyse de la constitution d'Angleterre. Alors, je dis entre parenthèses, l'Angleterre est une monarchie, mais au sens, je dirais, théorique du mot, c'est une démocratie. Alors, pourquoi ? Voici ce que nous dit Montesquieu. Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S'ils sont bons, la liberté y apparaîtra comme dans un miroir. Et cette constitution, c'est la constitution d'Angleterre, chapitre 6. Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs, la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Bon, nous avons ici la définition, reprise du reste dans la constitution française, élaborée avec le nouveau régime de la 5e République est voulu par le général de Gaulle et ses juristes et ses constitutionnalistes. La voici. Tout commence évidemment par l'idée d'une liberté politique. Alors cette liberté politique, elle suppose ceci, hein, la liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité de l'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté, on y revient, et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse rien craindre d'un autre citoyen. Premier point. Deuxième point, il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Voici ici les trois puissances liées à ce qu'on peut appeler la démocratie, qui doivent régir la Constitution et donc garantir fondamentalement la liberté. Une liberté politique ici, alors qu'auparavant on avait une liberté civique, je dirais.
Alors, donc, c'est pas étonnant que...
Je reprends.
Pardon, c'est pas étonnant qu'il y a tout de suite suppression de ces pouvoirs. En fait.
Oui. Alors, le pouvoir de juger, évidemment, au XVIIIe siècle, le pouvoir par excellence, c'est le pouvoir de la loi, le pouvoir législatif, mais un pouvoir législatif qui est différent, différencié du pouvoir de juger. Les mêmes ne doivent pas faire la loi et juger de la loi. Reste, évidemment, ce qui est pour nous peut apparaître comme l'essence même du politique, le pouvoir exécutif. Mais il est très intéressant de savoir que la liberté, une fois que la sécurité ou la sûreté est assurée, la liberté des citoyens suppose justement cette régulation du pouvoir et cette détermination des trois pouvoirs de leur indépendance. Et nous voyons bien comment les régimes autocratiques ou même les démocratie illibérale, dont je vais bientôt parler, sont des régimes qui suspendent, en particulier qui suspendent la justice, l'exercice de la justice. L'exercice de la justice est sous la pression de l'exécutif. Et quant à la loi, elle est anéantie dans la volonté du prince.
Donc, vous avez intitulé cette émission « La démocratie, où en sommes-nous » Eh bien, on est dans mauvaise époque. Alors, une accélération, peut-être
Nous sommes dans une période dangereuse.
Dangereuse, oui. Et nous continuerons dans cette seconde émission à en parler. Merci à vous, Françoise.
Merci à tous et à toutes.